arrive à Clermont-Ferrand et il semble-t-il, il a failli égarer un manuscrit très important.
Oui, alors, il était secrétaire de rédaction à Paris Soir à l'époque, petit secrétaire de rédaction. Quand il y a eu l'exode, la plupart des chauffeurs du mois de Paris Soir étaient mobilisés, n'étaient plus disponibles. Alors, on a donné au rédacteur des volants, quoi. On a mis Camus au volant d'une voiture, on a placé dedans du personnel, des correcteurs, des rédacteurs, tout ça, pour direction Clermont-Ferrand. Et nos amis l'ont vu arriver à Clermont-Ferrand, la voiture d'essence, tout, et Camus descend, il devient tout pâle, et se met pris dans le coffre, il croyait qu'il avait perdu le manuscrit d'étranger.
C'est à ce moment-là que Camus a fait la connaissance de Rirette Maître-Jean, qui était une correctrice et qui était en fait très proche de Victor Serre. Et alors là, on trouve quelque chose de très intéressant, parce qu'à partir de notre petite anecdote à Clermont-Ferrand, on trouve les sympathies de Camus pour le mouvement libertaire. Je voudrais commencer par ça, une question sérieuse maintenant, c'est-à-dire passer aux raisons pour lesquelles Camus s'est engagé dans ce mouvement libertaire. Je rappelle, on va y revenir tout à l'heure avec Agnès Piquel, qu'il a été membre du Parti communiste français puis algérien, algérien puis français, donc il était communiste. Et au fond, là, à ce moment-là, il n'est plus communiste, il est libertaire.
Il était libertaire, il avait de la sympathie pour les libertaires. Bon, il y avait aussi son côté moitié espagnol, il était très proche des anarchistes espagnols. Je crois qu'il a donné des articles à Soledad Obrera, qui était le journal des libertaires espagnols. Et en France, il a toujours bien accueilli, par cette amitié pour la vieille Maître-Jean, personnage historique, parce qu'elle avait été jugée avec la Ronde Abono, quand même. Il a sympathisé surtout avec. J'étais témoin des anarchistes de Montmartre, qui était prêt. Je ne veux pas dire dont le chef, il n'y a pas de chef, enfin, qui était animé par un certain Maurice Joyeux, qui est un personnage très très pittoresque, très sympathique, et qui s'est pris d'amitié pour Camus. Et Camus a souvent reçu, fréquenté Maurice Joyeux. Joyeux a lui-même écrit sur Camus, il enregistrait même un disque sur Camus.
Voilà, c'était le groupe. Maurice Joyeux, dans une émission que j'avais faite, c'était Mémoire du siècle, m'avait dit, je ne sais pas si c'était vrai, il m'avait dit, j'ai fait une heure donc avec lui, il m'avait dit, en fait, Camus ne disait pas complètement, il était un vrai anarchiste. Parce que Joyeux était tellement fier de son engagement anarchiste.
Bien sûr.
Il disait, avait engagé Camus, et au fond, Camus était un vrai anarchiste. Il exagérait.
C'était un petit peu exagéré. J'étais habitué à. Pendant toute la guerre, il avait été. Dans le fond, c'était bien d'être anarchiste parce que en 39, on l'a enfermé comme personnage dangereux. Et il a passé toute la guerre prisonnier au fort de Montluc. Pas eu besoin d'aller faire la guerre. Et il s'est même trouvé en cellule avec de l'aide de Tassini. Alors, ça, c'est, je ne sais pas si c'est le sujet, mais en fait, c'est assez joyeux.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette inclination de Camus pour les idées libertaires et quelle place ça a joué dans sa vie politique? Parce que comme on va parler juste tout à l'heure, on va essayer de voir un peu cet engagement politique.
Oui, alors, de fait, il ne s'est jamais engagé directement dans le mouvement anarchiste. D'ailleurs, après les 18 mois qu'il a passé au Parti communiste algérien, il n'a plus jamais pris sa carte dans aucun mouvement. Et je dirais tout de suite, contrairement à ce que disait Antoine Spire, que même quand il était au Parti communiste algérien, il disait lui-même qu'il n'était pas communiste, il n'adhérait pas à l'idéologie communiste. On reviendra peut-être sur les raisons pour lesquelles il y était. Mais je crois que sa sensibilité était profondément libertaire, mais que rationnellement, sa position politique était beaucoup plus social-démocrate. Mais profondément, à cause de l'Espagne, mais aussi à cause de ce goût qu'il avait de la liberté et son impatience face à toutes les structures et face à la classe politique française, dont il avait espéré le renouvellement après la résistance, et il est navré de ce qu'il voit, et tout cela augmente ses sympathies anarchistes. Et je ne devrais pas ramener Guillou, mais il me semble que l'un et l'autre ont été profondément marqués par le mouvement anarchiste espagnol. Guillou a fréquenté de très très près des réfugiés espagnols à Saint-Brieuc. Et tout cela, il faudrait aussi mettre Maria Casares, hein, qui est directement liée à ce mouvement anarchiste espagnol. Tout cela fait un fond d'attachement très profond chez Camus aux idées libertines, mais aussi à la pratique des anarchistes espagnols. Et puis, bien sûr, on y reviendra forcément, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur les anarchistes russes du début du siècle. Donc, il y a tout un ensemble de
choses. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des personnages qui ont pu compter pour Camus et qu'en fait, ils ont son inclination pour les idées libertaires passent grâce à Rigrette, maître Jean, qui était donc la femme qui était la compagne de Victor Serge. Victor Serge, c'est quand même une personnalité un peu exceptionnelle. Et donc, pour Camus, ça comptait, ces figures. De la même manière, on peut parler de quelques anarchistes qui ont compté. On a parlé de Joyeux, mais il n'y a pas de Joyeux, il y a Le Coin. En fait, il y a des gens qui comptaient, comme Le Coin, comme Joyeux, pour Camus. Et je me suis souvent posé la question, parce que Camus adhère au Parti communiste en 35, pardon. Et donc après, il va les quitter. Pendant la guerre, comment les choses se sont passées et comment est-ce que petit à petit il a été gagné par ces figures?
Alors, plusieurs choses. Effectivement, que ça passe par des figures, ça me paraît très très important. Camus est toujours sensible au côté, excusez-moi, au côté sensible des idées. C'est pas quelqu'un qui fonctionne avec des concepts. Et par exemple, il n'est pas lui-même croyant, mais la rencontre de quelques chrétiens marquants fait qu'il se pose un certain nombre de questions. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est les rencontres de gens, et il faudrait ajouter à tous ceux qui ont été nommés les anarcho-syndicalistes des ouvriers du livre, avec lesquels il s'est très très bien entendu et qui lui ont fait ce livre extraordinaire en hommage après sa mort, les ouvriers du livre, à quelqu'un qui était pour eux un ami. Alors je reviens à son engagement au Parti communiste algérien égyptien. En 1935, il adopte le Parti communiste algérien parce que c'est le seul endroit, lui semble-t-il, il est à Alger à ce moment-là, il n'est pas encore venu en métropole, où il peut à la fois lutter contre le fascisme et contre le colonialisme. Le PCA, Parti communiste algérien à ce moment-là, noue les deux. Et il est chargé par la cellule d'Alger des contacts dans les milieux arabes. Le problème, c'est que le Parti communiste algérien change de stratégie sous la pression de Moscou et fait passer en avant la lutte antifasciste et en second, la lutte anticolonialiste. Et Camus est absolument contre, et il n'est pas tout seul, cette inflexion de la ligne. Et donc, il part au moment où il va être exclu. Exclu pour trotskisme, d'ailleurs, c'est très, très intéressant. Mais il est intéressant de voir tous ceux qui partent en même temps que lui, y compris des Algériens, ceux qu'on appelait des indigènes à ce moment-là, parce que les Français sont aussi des Algériens à ce moment-là, et avec qui il va rester en lien. C'est-à-dire que le Parti communiste algérien, pour lui, beaucoup plus qu'une adhésion idéologique, a été un lieu de contact avec, j'allais dire, la frange la plus progressiste en Algérie.
Alors peut-être c'est important parce que beaucoup de gens savent ici, j'imagine, qu'il y a eu deux forces politiques importantes dans le FLN qui ont joué un rôle dans la libération de l'Algérie. Le MNA, qui a finalement été complètement écrasé par le FLN, et puis le FLN. Et en fait, ces deux partis qui ont joué chacun un rôle essentiel, eh bien, il y en avait un qui était cher au cœur de Camus, c'était le MNA. Et il y avait avec le MNA des forces nationales algériennes qui, au fond, de Camus partageaient l'engagement. Et s'il est venu au Parti communiste, c'est plus en liaison avec le MNA et avec le petit peuple d'Alger que pour des raisons idéologiques, comme vous l'avez dit. Au fond, ça n'intéressait pas tellement l'idéologie du Parti communiste. En revanche, ce qui l'intéressait, c'était de partager cette lutte anticoloniale. Et comme le Parti communiste a viré et petit à petit pris ses distances avec le MNA, Camus n'était plus à l'aise. Et c'est un peu comme ça qu'il est parti.
C'est beaucoup comme ça. Je ne sais pas si le MNA en 35-37 était constitué en tant que tel, mais il est évident que c'est les militants du MNA avec lesquels il avait et avec lesquels il a gardé des liens. Et une des raisons pour lesquelles il n'a jamais adhéré à l'idée de l'indépendance, c'était les pratiques du FLN et les liquidations terribles par le FLN contre les militants du MNA. Alors, si c'est le MNA qui l'avait emporté dans cette lutte interne, comment Camus aurait évolué, on ne peut pas savoir. Mais je crois que c'est très très important de marquer ces sympathies profondes et les liens dans les années 30 à Alger. Camus est aux côtés de ceux qui se battent contre le système colonial.
Je vous pose la question de savoir si on ne touche pas à un problème absolument essentiel. Est-ce que beaucoup de gens racontent toujours l'histoire, vous savez, la mère, Camus préfère sa mère, etc. Bon, on ne va pas prendre ce lieu commun, mais derrière ce lieu commun, il y a quelque chose de très important, c'est que, compte tenu de l'engagement du FLN, de la manière dont le FLN se battait, c'était difficile pour Camus, pour des raisons morales, de partager, au fond, le point de vue du FLN, et comme il était du côté du MNA, ça a fait qu'il est apparu comme quelqu'un qui n'était pas entièrement pour un développement de l'indépendance algérienne. Sans doute, ça aurait été différent si Camus avait gagné, comme vous l'avez dit. Et peut-être Camus, alors dans ce cas-là, aurait pu envisager autre chose pour l'Algérie.
Il est évident qu'il était de ceux qui envisageaient une Algérie pluriethnique, plurireligieuse. Et que très vite, il a été évident que le programme du FLN était tout sauf ça. Donc, évidemment, il a été de ceux qui ont pris leur distance. Alors, quelques-uns rêvaient de cette même Algérie ouverte et se sont quand même ralliés au FLN parce qu'ils voulaient véritablement la victoire de la cause indépendantiste. Je pense à Mahmoud Firaoun, qui était indépendantiste et qui en même temps était parfaitement conscient de ce qu'était le FLN. Le journal de Mahmoud Firaoun est étonnant sur ce point-là. Et il savait que le FLN avait des pratiques de parti totalitaire. Il le dit, hein, c'est une citation de Mahmoud Firaoun. Et puis, pour Camus, les méthodes terroristes, terrorisme de masse, hein, on y reviendra par rapport au juste, sont absolument inacceptables. Et vous avez raison de rappeler que dans la phrase de Stockholm, je préfère ma mère à la justice, c'est à la justice qui s'impose par les bombes. Et je préfère ma mère, c'est-à-dire je préfère tous ceux qui sont les victimes de l'histoire, tous ceux qui sont écrasés. Et on sait combien il y a eu de victimes civiles indigènes pendant la guerre d'Algérie.
Il faut rappeler en même temps que, pour bien comprendre comment il se situe politiquement à cette époque, que Camus, dès 39, est abolitionniste. Ça veut dire qu'il est pour l'abolition de la peine de mort. Ce qui est quand même un point très très important, parce qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde pour l'abolition de la peine de mort. Mais s'il est pour l'abolition de la peine de mort, il n'admet pas qu'on puisse, à un moment donné, pour des raisons politiques, donner la mort à quelqu'un, tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un. Et donc, quand il parle d'une guillotine rouge de sang, la guillotine rouge de sang, pour lui, par exemple, après la guerre, il sera contre l'exécution de Brasillac.
Uniquement parce qu'il est contre la peine de mort.
Uniquement parce qu'il est contre la peine de mort.
Il est égoïste par la guerre profondément.
Vous avez parlé de ça avec lui?
Je n'ai pas parlé directement, mais bon, on en parlait beaucoup dans la notion de combat. Moi, j'ai pas souci à poser droit de dire.
Est-ce que Claude Mauriac, qui raconte. J'ai eu une longue discussion avec Claude Mauriac à ce propos, et Claude Mauriac raconte très bien les conditions dans lesquelles la démarche d'un certain nombre d'intellectuels s'est faite auprès du général de Gaulle pour que Brasillac ne soit pas exécuté. Et il dit, moi, j'ai dit au général de Gaulle que Camus ne voulait absolument pas qu'on tue Brasseur. Ça n'a pas eu d'effet, parce que finalement, de Gaulle a fait ce qu'il voulait faire, mais ça veut dire que c'était un argument.
Non, mais il était contre la peine de mort avec toutes sortes d'arguments, en disant la peine de mort, c'est définitif, et alors si on ne sait pas ça, on s'est trompé avant, par rapport à ça, etc. Et alors j'ai eu une petite expérience, c'est que pendant une certaine époque, j'ai écrit les mémoires d'un aide du bourreau, d'un aide de Blair, de Fourneau et de Brecht, et qui était assez effrayant tout ce qu'il disait. Et c'est tellement effrayant qu'on ne l'a pas publié, et je m'en suis servi dans un roman qui s'appelle Les Monstres, et je fais parler, j'ai fait un personnage de cette aide du bourreau qui s'appelait Georges Martin, et j'ai rapporté certains de ses propos. Et quand Camus a repris d'écrire Réflexion sur la guillotine, il m'a demandé, il m'a dit, mais tout ce que tu mets dans la bouche de cette tête bourreau, c'est vrai? Je lui ai dit, oui, c'est authentique, je te garantis. Et alors, il s'en est servi dans les Réflexions sur la guillotine.
Alors ça, c'est un texte de 46, hein, si mes souvenirs sont exacts. En 46, il écrit la chose suivante. Et puisque je me suis laissé dire que l'Organisation des Nations Unies tient une session importante, nous pourrions lui suggérer que le premier texte écrit de cette organisation mondiale devrait proclamer solennellement la suppression de la peine de mort sur toutes les tempêtes de l'univers. Ça, c'est dans le tome 2 de la Pléiade.
Alors, je voudrais quand même dire une chose. Pendant quelques mois après la libération, Camus a quand même eu une parenthèse où il était pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'il avait vu mourir ses amis résistants. Et pendant quelques mois, il a... penser qu'il fallait faire justice pour ces résistants qui avaient été massacrés, et que donc il fallait que les collaborateurs notoires, hein, pas les règlements de compte qu'il y a pu y avoir au moment de libération, mais que les collaborateurs notoires soient punis. Et il y a eu un débat tout à fait étonnant entre Mauriac et lui, Mauriac dans le Figaro et lui dans le combat, où Camus demandait la justice et Mauriac demandait la clémence au nom de la charité. Et finalement, Camus a très vite changé d'avis, non pas pour se rallier à l'idée de Mauriac sur la charité, mais en disant non, l'opposition à la peine de mort, elle est radicale, absolue, et au bout de ces quelques mois, il est revenu sur cette position radicale. Et il a eu l'honnêteté de dire publiquement Monsieur Mauriac avait raison. Même si, encore une fois, ce n'était pas pour les mêmes motifs qu'il défendait l'un et l'autre l'abolition.
Après ces kiffs, donc on est juste avant ce texte de 46, on est en 45, après ces kiffs dans le combat, vous étiez sans doute avec lui, vous avez dû en discuter, Roger Grenier, Camus écrit « C'est la justice qui sauvera l'Algérie de la haine ». Et il ajoute, c'est là où on voit vraiment le type d'engagement qui est le sien, de malheureuses et innocentes victimes françaises viennent de tomber et ce crime en lui-même est inexcusable. Et je voudrais que nous répondions au meurtre par la seule justice pour éviter un avenir irréparable. J'ai l'impression que ça, c'est un moment clé dans l'histoire de la
vie. Oui, d'autant plus qu'il a. C'est lui qui était un des seuls à écrire sur cet événement épouvantable de ce type. Et évidemment, ça allait complètement contre tout ce qu'il croyait. Au départ, la violence s'était déchaînée dans un certain nombre d'Européens. Et puis la répression qui était encore pire.
Camus est de ceux qui ont l'impression que depuis les années une issue autre que la violence en Algérie. Il a soutenu le plan de l'Onde Violette qui devait donner la citoyenneté à quelques dizaines de milliers d'Arabes. Ils étaient une poignée et ce plan n'est même pas venu en discussion au Parlement français. Bien après, au moment où la guerre a commencé, tous ceux qui avaient soutenu ce plan de l'Onde Violette se sont dit mais peut-être si ce plan, au moins ce plan-là, avait été accepté, peut-être on n'en serait pas là. Et c'est vrai que les massacres terribles de Sétif et de Constantine, le jour même où la France célèbre sa libération, c'est terrible. Et il ne faut pas oublier que les indigènes, on nous l'a rappelé avec un film il y a quelques années, avaient payé un tribut à la Première et à la Seconde Guerre, et Camus, dès 37-38, publie des articles en disant mais où est la générosité de la France qui devrait remercier ne serait-ce que pour remercier tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de la France dans la République française, devraient accepter cette évolution du système et tout cela n'a pas été donné quand la guerre ou les événements, comme on disait, ont commencé parce qu'ils ont vu toutes ces occasions ratées.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'engagement politique de Camus était sous la domination d'une vision morale. C'est-à-dire que ce qui l'emportait, c'était quand même cette morale. Je pense à un texte où il dit « penser, c'est dire non ». Penser, c'est dire non. À partir du moment où on pense, on commence à dire non. Et ensuite, ce qui le motivait, c'était un goût du bonheur dans la lumière. Ce qui le motivait, c'était la dignité des pauvres, la dignité des pauvres algériens. Et ça, de ce point de vue, avec eux, c'était fondamental dans l'idée qu'il avait, c'était une sorte de fidélité aux humbles, et il y avait chez lui quelque chose comme une appartenance revendiquée au petit peuple de Bellecour. Et ça, ça a longtemps compté. Alors je veux savoir, Roger Boyer, si vous vous souvenez d'images qui illustrent ce lien qu'il avait avec ce petit peuple de Bellecour.
Tout récemment, là, il y a quelques semaines, par un gamin qui était un enfant avec Camus dans les rues de Bellecour et qui parle de lui, il parle surtout du football.
Évidemment, parce que c'est pour ça qu'il fait beaucoup de football.
C'est très touchant parce qu'il y a des images, il montre un Camus.
Voilà, cette morale de croix rouge, c'était quand même assez méprisant.
Oui, mais ça on l'a dit, surtout quand il avait
c'était la révolution, c'est l'introduction de la morale en politique. C'est ça, la révolution. Alors, je pense que c'est la base. La vie politique ne consiste pas à faire tourner des partis, ça consiste tout simplement à prendre chaque problème en se posant la question morale, en prenant en compte la morale dans ce questionnement politique. Et ça lui est venu quand il réfléchissait pendant la guerre aux raisons qui faisait que lui, qui avait été pacifiste avant la guerre, s'était engagé dans la lutte. Et c'est les lettres à un ami allemand qui sont un texte, ces quatre lettres qu'il écrit en 1942-1943, où il réfléchit à la nécessité absolue de s'engager à ce moment-là, quitte à se salir les mains. Et à ce moment-là, la réflexion, elle est en termes moraux, c'est-à-dire on est obligé, le nazisme nous y contraint, d'entrer dans la lutte. Alors, il faut se donner un certain nombre de règles et se pose dès ce moment-là la question de la mesure. La violence est inévitable et la résistance à utiliser des moyens violents. Alors, quelle mesure on va donner à cette violence? Et la question de la mesure est une question morale, parce que le seul critère de la mesure ne peut être qu'un critère moral, qui est tout simplement la préservation de la vie. Alors quand on dit morale de Croix-Rouge, c'est parce que autour de combats et de la peste, c'est-à-dire juste après la guerre, dans la seconde moitié des années 40, Camus se dit toutes les idéologies se sont transformées en absolus, et au nom de ces absolus, on a tué. Alors, il faut renoncer à tous ces absolus qui deviennent mortifères. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, peut-être une politique beaucoup plus modeste et qui soit simplement l'idée de sauver le corps, sauver des vies. Ne jamais rien faire qui peut amener la mort de quelqu'un. Et ça, il le confie à ce très beau personnage de Tarot dans La Peste. Alors, on dit morale de Croix-Rouge, mais ce n'est pas l'humanitarisme vénant, c'est tout simplement la seule valeur absolue, c'est la vie. C'est le seul absolu. Tous les autres. Alors, effectivement, à partir de là, qu'est-ce que l'on peut bâtir? On peut bâtir une morale dont une des règles de base est non, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas au nom de notre main qui chante qu'on a le droit de tuer des millions de gens, parce que quand ils luttent contre le terrorisme, ce n'est pas simplement les terroristes qui mettent. C'est aussi les gouvernements qui larguent une bombe sur Hiroshima. C'est du terrorisme d'État, ça. Et là, il faut lutter contre cette justification de la violence mortifère.
Mais pas du tout. Mais la question qui se pose, c'est Camus, en fait, à l'époque, est quand même un peu seul dans son genre. Avec ses positions, il a contre lui tous ces intellectuels qui sont engagés avec le Parti communiste. Il a vraiment oublié de ça. Qui s'en est rapproché, et en conséquence, il apparaît un peu, alors que vous avez dit, il n'est pas mêlant, il apparaît comme un agneau mêlant, et beaucoup de gens le décrivent comme quelqu'un qui, au fond, refuse de s'engager du bon côté. Là, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, la morale concrète chez Camus. Alors, vous avez cité la question de la menace nucléaire dans ces articles, au moment où vous venez avec vous à Cuba, l'avertissement contre la menace nucléaire est très fort. C'est-à-dire qu'il prend position et il dit que c'est la menace nucléaire. À l'époque, c'est quand même assez mal vu. Il y a peu de gens qui se.
Oui, le seul article, je crois, qui pose des faits d'horreur contre Hiroshima.
Personne ne veut dire Hiroshima, évidemment, parce que c'est la fin de la guerre. On va se débarrasser, ça va être fini avec les Japonais, cette affaire est formidable. Et Camus prend position donc contre Hiroshima. Ensuite, on en a parlé, il y a des éditoriaux contre la peine capitale. Et il y a aussi la critique du régime totalitaire en Union soviétique. Et ça, toujours au nom d'une morale très concrète, dans la mesure où c'est des individus qui sont détruits par ce régime. En fait, il y a des appels à défendre la dignité humaine en Union soviétique. Ce qui, bien sûr, fait découler un certain nombre de ceux qui sont engagés aux côtés des communistes, qui ne comprennent absolument pas cet engagement. C'est un moment où il n'y a presque plus de dialogue entre Camus. engagés, disons, à la gauche.
Camus dit qu'il n'y a pas de bourreaux privilégiés. Si on dénonce un totalitarisme, on les dénonce tous. Si on dénonce le nazisme, on dénonce aussi le régime soviétique. Et il est dans une période d'affrontement idéologique où l'on est sommé de choisir un camp. Et donc, on est contre les communistes, et dans ce cas-là, on ferme les yeux sur Franco, ou bien, on est contre Franco et on ferme les yeux sur Staline. Et puis il dit non, il faut ouvrir les yeux et dénoncer tous les bourreaux. Mais il est à une période où on doit choisir son camp, c'est la guerre froide. Et effectivement, du coup, il se met absolument tout le monde à dos. Mais il est absolument outré que, par exemple, on admette l'Espagne franquiste à l'UNESCO. Et il dénonce cela, ce qui fait qu'il est très très mal vu aux États-Unis et qu'il est aussi très mal vu en URSS. Donc, c'est pas un agneau bêlant, c'est quelqu'un qui, à une époque où vraiment ça ne se faisait pas, refuse, au nom d'une idéologie, de choisir un camp et de fermer les yeux sur tout ce qui se passe dans ce camp.
Alors, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ce propos était politique, mais à l'époque, le propos n'est pas considéré comme politique, il est considéré comme moral et donc apolitique. Quand on regarde la peste, quand on regarde les justes, vous allez voir tout à l'heure, quand on regarde Requiem pour une nonne, en fait on constate que le cadavre de l'innocence constitue le plus irréfutable démenti de toute parole d'assentiment accordée à l'atrocité du monde. Et en fait, ce cadavre de l'innocence, c'est quelque chose de très fort dans les textes de Camus, dans la tête de Camus, et ça compte énormément. C'est-à-dire que pour lui, il y a quelque chose qui est insupportable, c'est qu'on puisse sacrifier des innocents. Et on va arriver évidemment à sa position contre le nihilisme. Ce qui préside au juste, c'est cette position de Camus contre le nihilisme. Alors peut-être on peut essayer de voir où on vient, parce que tout aurait dû rapprocher Camus des nihilistes.
Oui.
Et en fait, tout le sépare de l'Église.
Absolument. Il sait qu'il y aura la mort de l'innocent, mais ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on puisse la justifier. Et ça, je crois que c'est capital. Or, que font les régimes totalitaires? Ils justifient la mort de millions de gens pour des lendemains. C'est qu'on justifie cela. Parce qu'on sait bien que les enfants continueront à mourir, hein, et là il y a tout Dostoïevski derrière, mais qu'on puisse justifier que froidement on tue des innocents parce que c'est la nécessité historique, ça il ne peut pas, il ne peut absolument pas l'accepter. Alors j'ai oublié la fin de votre question.
Ben, c'est la question des nihilistes.
Oui,
moi j'ai dit qu'il faut tout le rapprocher des nihilistes.
Oui, évidemment. Évidemment, comme il a commencé par penser l'absurde, on pourrait dire, au bout de l'absurde, eh bien, il n'y a rien. Nihilisme, le rien. Donc, aucune valeur qui ne tienne, puisque de toute façon, il n'y a pas de sens transcendant, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de Dieu, donc tout est permis. Eh bien, non, pas du tout. Et c'est tout le passage du cycle de l'absurde, qu'il commence par penser philosophiquement, au cycle de la révolte, c'est. Il n'y a pas de sens transcendant, il n'y a pas de garant de ce sens, mais on construit ensemble quelque chose. Et on construit ensemble quelque chose à partir de ce qui viscéralement nous révolte. Je me révolte, c'est viscéral. Donc nous sommes. Et à partir de là, on est aux antipodes du nihilisme. C'est justement parce qu'il savait très bien que la pensée de l'absurde, il était important pour lui de passer par cette étape. Pouvait mener au nihilisme qu'il fait suivre immédiatement le cycle de l'absurde par le cycle de la révolte pour dire attention, de la pensée d'absurde, on ne dit pas le tout est permis. Non, on pense ensemble ce que l'on va pouvoir faire dans le respect de la vie et pour ne pas trahir cette révolte initiale.